Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le rendez-vous jeu commence, on est en octobre 2021, c'est l'épisode numéro 208 et on va vous parler de Animal Crossing, du Nintendo Switch Online plus Expansion Pass et de son tarif un petit peu controversé. On a aussi des news du DC Fandom avec des jeux Batman qui sont plutôt attrayants. Je m'éclaircis la voix et on va aussi parler des jeux auxquels on joue en ce moment comme Rift Breaker, Wildermyth, Metroid Dread, des news sur plein de sujets différents et c'est parti. Alors, il y a un problème avec mon soundboard, c'est que la musique commence genre une seconde et demie après que j'ai appuyé sur le bouton, au lieu de tout de suite quand j'ai appuyé sur le bouton. Et j'ai pas encore pris le temps de raccourcir le truc. Professionnalisme un petit peu impacté quand même, Patrick. Je suis très déçu de moi-même. J'espère que vous m'excuserez cette faute presque inexcusable. Et pendant ce temps, je vais me permettre de dire bonjour à tout le monde, à la chatroom bien sûr, puisqu'on est en live sur Twitch comme tous les jeudis midi ou presque, j'en parlerai dans un moment, et également à une personne qui me fait toujours un grand plaisir de revoir, ou en tout cas de re-rencontrer virtuellement. C'est mon ami de toujours, de très longue date, Daniel Charby, alias Dany. Comment vas-tu, Dany ?
Eh ben, très bien, je suis content d'être ici, comme d'habitude.
Ah, est-ce que tu es vraiment Dany ? Le vrai aurait dit, moi je te déteste et je ne suis pas ton ami et je préférerais être ailleurs, un truc du genre.
Attends, alors laisse-moi rajouter quelque chose. Okay. Tu vois, tu parlais d'être déçu de toi-même et tout, mais non, moi tu me déçois pas du tout, c'est à peu près le niveau d'attente auquel tu nous as habitués depuis si longtemps.
Très bien, voilà, c'est ça qu'on espère quand on va avoir Dany dans l'émission. Super, bah, très heureux de t'avoir avec nous, enfin très heureux, je pense que les auditeurs, ça va les amuser un peu, moi beaucoup moins, mais il n'empêche, tu vas nous prêter ton expertise de tous les domaines du jeu vidéo, et donc on va parler de tout ça. Vous savez, il y a des gens que j'aime, ou je fais semblant, genre Dany, et puis il y a des gens que j'aime vraiment, c'est des gens qui soutiennent le rendez-vous jeu, pas le rendez-vous tech, mais le rendez-vous tech aussi, mais aujourd'hui, par exemple, Jace Chris, Travis Kramer, Tari Rock, Kevin Merlet sont les patriotes que j'aimerais remercier spécifiquement, puisqu'ils ont rejoint l'équipe de ceux qui permettent à l'émission d'exister, et en particulier les producteurs Claude Girel et Stéphane Grégory Sata, le groupe complet des gens absolument merveilleux qui font que vous pouvez avoir cette émission dans vos oreilles. Donc, on vous remercie énormément. Et justement, en parlant de patriotes, j'aimerais qu'on fasse un petit after show, peut-être, après l'émission. Et j'ai un petit sujet qui est, je crois, assez intéressant, qui est comment expliqueriez-vous à un non-gamer pourquoi vous aimez les jeux vidéo ? Qu'est-ce qui fait que... Mais pour que ce soit compréhensible à un non-gamer. On va voir si ça intéressera les gens. On fera un petit after show après l'émission. Et l'after show est réservé aux gens qui soutiennent le rendez-vous jeu. C'est une question qui n'est pas évidente, je crois. Comment vraiment expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas les jeux vidéo pourquoi les jeux vidéo, c'est cool ? Bon, on en discute.
Est-ce qu'on peut cracher sur le cadavre de ses adversaires ?
Ça, c'est un avis assez spécifique de Dany et j'imagine que tu l'as édulcoré pour nous en parler ici.
Évidemment, évidemment. Ouais, je ne voulais pas non plus choquer l'audience.
Donc, écoute, il y a vraiment beaucoup de news, donc on va se lancer immédiatement. Et la première chose dont on va parler, c'est le Animal Crossing Direct qui a eu lieu il y a quelques jours de ça. Et c'est pas uniquement le Animal Crossing qui a été important, c'est aussi la partie Nintendo Switch Online plus Expansion Pass. Et cette partie est la plus, comment dire, choquante. On savait que le Nintendo Switch Online allait avoir un Expansion Pass, puisqu'on en avait entendu parler dans un Nintendo Direct il y a quelques semaines de ça. Et on comprend maintenant pourquoi il n'avait pas donné le prix de cet expansion pass en même temps que le fait de l'annoncer, parce que, alors, certains sont un petit peu frustrés de ce nouveau tarif, et je vais vous le donner tout de suite. Le Nintendo Switch Online de base, il est à combien ? C'est 25€ par an, je crois ? Ou 19,99 même.
19,99.
Hein. Ouais. Et le Expansion Pass, il coûte au total 49,99 par an. Ce qui veut dire que la version avec extension coûte plus cher que la version de base du Nintendo Switch Online. Alors, ceux qui ne le savent pas, parce que vous êtes loin de l'univers de Nintendo, peut-être, le Nintendo Switch Online, c'est l'équivalent du PlayStation Plus et du Xbox Live Gold. C'est-à-dire que ça vous permet de jouer en ligne et ça vous permet également d'avoir accès à des jeux bonus, ces jeux étant essentiellement les jeux... comment ça s'appelle ? Super NES et NES, qui sont disponibles par émulateur sur la Switch. Il y a d'autres petits bonus en plus, mais en gros, c'est ça. Et donc, quand ils l'ont lancé, on se disait « Ah, ça fait un abonnement en plus, ça fait quand même un petit peu beaucoup, mais peut-être qu'ils le feront, qu'ils le donneront pour pas très cher. » Le truc, c'est que ils l'ont fait pour pas très cher, mais ils se sont dit qu'ils étaient un peu en train de laisser de l'argent sur la table, et donc ils proposent une extension à un abonnement qui est du coup plus cher que l'abonnement lui-même, 50€ par an en gros, mais ça donne accès, en plus des jeux Nintendo Entertainment System et Super Nintendo Entertainment System, ça donne accès, comme on l'avait entendu, aux jeux Nintendo 64, aux jeux Sega Mega Drive, qui sont inclus dans l'abonnement. Et c'est là la nouvelle info qui a été révélée pendant le Animal Crossing Direct. Ça donne aussi accès à l'extension de Animal Crossing, qui s'appelle, à l'extension payante d'Animal Crossing, qui s'appelle Happy Home Paradise. Et on va en reparler dans une seconde. Du coup, la question, Dani, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle formule de Nintendo pour gagner plus d'argent?
Bah, à mon avis, bon, évidemment, ça, il y a eu une levée de bouclier de gens qui disaient, oh, quelle horreur, machin, c'est très cher. Bon, c'est le prix, on peut en débattre autant qu'on veut. Moi, je trouve ça effectivement assez cher par rapport à l'abonnement actuel. Ce que je pense, c'est surtout que à terme, l'abonnement online à 19,99 va peut-être disparaître, pour justement essayer de pousser les clients à upgrader et à forcer un peu la main de tout le monde à passer sur le Switch Online à 49,99, malheureusement.
Donc, je crois qu'ils vont carrément le virer. Là, ça serait un petit peu beaucoup, je trouve, comme... mais bon, peut-être un jour, mais...
C'est une question de profitabilité et de comparaison aussi avec finalement ce que font Microsoft.
Attends, excuse-moi, je me suis trompé sur le prix. Je prenais les prix d'ailleurs ou qui avaient été en rumeur. En fait, c'est seulement le double du prix de base, donc c'est le même prix. C'est 39,99 pour le prix avec l'extension, l'expansion pass pour l'abonnement. Aux États-Unis, c'est $5 de plus. Et il y a sans doute d'autres pays où c'est plus cher. Donc, c'est juste le double du prix. C'est le prix, c'est le même prix. L'extension est au même prix que l'abonnement de base. Mais oui, donc tu disais peut-être que le truc va disparaître.
À terme, c'est un moyen d'effacer petit à petit le Nintendo Switch Online, en plus en ayant une communication externe en disant le Nintendo Switch Online additionnel plus extra machin fonctionne tellement bien que on n'a plus besoin de l'ancien. Voilà. Mais bon, ensuite le contenu, je trouve, du pack additionnel, bon, ça va peut-être parler aux fans d'Animal Crossing. Bon, moi, ça m'intéresse pas énormément. Et pour ce qui est de l'émulation Mega Drive et Nintendo 64, c'est sympa. Par contre, je sais pas en fait quel est l'engouement du joueur Nintendo moyen pour ces vieilles ROM et ces vieux jeux qui ont quand même pris pour beaucoup un coup dans l'aile. Je suis un peu dubitatif par rapport à la valeur ajoutée par rapport à la concurrence finalement, parce que bon, regarde, Microsoft et PlayStation, t'as des jeux relativement récents tous les mois.
Moi, je crois que c'est que le début pour cette histoire. Je pense pas qu'ils vont virer l'abonnement classique. Par contre, ils vont arrêter de travailler dessus. Et d'une part, bah, t'as le choix. Et si l'abonnement de base reste, bah, t'as le choix. Si tu veux jouer en ligne, tu payes 20 euros par an et t'es tranquille. Mais je crois qu'à terme, en fait, le nom Expansion Pass, qui est pack additionnel en français, va être de plus en plus cohérent, parce que j'imagine qu'ils vont ajouter des extensions à plusieurs jeux, à de nombreux jeux de leur catalogue. Et du coup, oui, la Nintendo 64, c'est sympa. Oui, la Mega Drive, c'est sympa. Il y a des gens qui disent « Ah, oh, Sega a dû leur faire payer super cher pour mettre les jeux Mega Drive dessus. » Non, ça, j'y crois pas. Ils ont payé un petit peu, mais si c'était super cher, Nintendo n'aurait pas payé. Ils ont d'autres choses, d'autres moyens de vous attirer vers leur abonnement que les jeux Sega dont ils se foutent, je pense. Mais bon, à côté de ça, imagine d'ici un an, deux ans, quand il y a, je ne sais pas, 3, 4, 5 extensions différentes pour des jeux que tu as aimés, bah, ça commence à devenir une valeur vraiment importante. Et en plus de ça, c'est hyper malin de leur part, parce qu'ils ne te donnent pas les jeux complets eux-mêmes, donc il faut quand même que tu achètes le jeu pour que cette extension ait un intérêt pour toi. Et donc, tu leur donnes quand même des sous en plus, mais si tu as aimé le jeu, ça t'apporte une vraie valeur. Alors oui, effectivement, aujourd'hui, Animal Crossing, si c'est pas un truc qui te parle, et moi, ça me parle pas, toi, ça te parle pas, mais c'est quand même un jeu qui a été vendu à combien 30 millions d'exemplaires en un an. Enfin, c'est un succès de fou. Et peut-être qu'ils doivent en être à 250 millions aujourd'hui, mais... Le jour où il y aura des extensions pour, je sais pas, par exemple, il pourrait sortir une extension pour Mario Odyssey ou peut-être Zelda 2 quand il sortira, tu vois, ce genre de truc. Tout à coup, ça commence à avoir une certaine valeur. Et j'ai donné les gros jeux, mais il peut y en avoir plein. Et c'est hyper cohérent avec le nom. Et c'est une manière intelligente de proposer du contenu additionnel aux joueurs sans... simplement donner les jeux, ce que Nintendo n'aime pas faire parce qu'ils n'aiment pas donner des trucs gratuitement. Donc, c'est pour moi, c'est le début. Et stratégiquement, c'est pas si bête que ça, même si aujourd'hui, ça ne va pas intéresser les gens qui ne sont pas toujours en train de jouer à Animal Crossing. En fait, on dit dans la chatroom les prochains Pokémon. Enfin, ça ouvre des possibilités incroyables, quoi.
Ça ouvre des possibilités. Là-dessus, je suis totalement d'accord. En fait, déjà, moi, ce dont je suis pas certain, c'est une fois que tu as ton abonnement d'un an et que tu as ton DLC d'Animal Crossing qui est inclus dans l'abonnement, si tu arrêtes ton abonnement, je suppose que tu perds l'accès au DLC. Contrairement à l'achat du... ouais, c'est quasi certain.
Oui, l'achat tout seul, c'est 25 euros si je ne m'abuse.
Ouais. Donc, en fait, pour l'instant, l'intérêt est limité, je pense, pour une personne qui s'intéresserait pas forcément à l'aspect émulation du pass. Je suis d'accord qu'à terme, quand il y aura plusieurs DLC inclus pour un certain nombre de jeux, ce sera sans doute très intéressant et rentable. Maintenant, est-ce que ça veut dire aussi que Nintendo fera de plus en plus de DLC sur ses propres jeux ?
Peut-être, ouais.
Hors Smash Bros ou Animal Crossing, est-ce qu'il y en aura sur Zelda, sur Mario, Mario Kart, j'en passe. Ça va être intéressant parce que ça peut signifier aussi un gros changement de stratégie pour mettre à jour des jeux qui ont déjà eu un gros succès.
Ouais, je pense que c'est pas du tout impossible. On verra, l'avenir nous le dira, mais dans l'ensemble, moi, je suis pas hyper choqué parce que ça reste complètement optionnel et je crois que personne ne va le prendre, enfin personne, peu de gens vont le prendre uniquement pour les jeux Nintendo 64 et Mega Drive, mais par contre, quand tu as une extension pour un jeu qui te plaît, bah tout à coup, ça devient un package où tu dis « Oui, bon, je le perds si j'arrête de m'abonner, mais c'est quand même beaucoup plus intéressant au niveau financier que, enfin, au niveau valeur que s'il n'y a que les jeux rétro. » Et bon, à voir. Je trouve ça surtout assez intelligent de prendre cette approche à laquelle personne n'avait jamais pensé de la part de Nintendo, de proposer des DLC dans cet abonnement. Donc, enfin, des DLC, je dis des, ça se trouve, Animal Crossing sera le seul, mais bon.
Et il y a une autre chose aussi, peut-être, à mon avis, avec l'augmentation des tarifs en général qu'on voit, c'est peut-être aussi un moyen pour Nintendo d'avoir un peu plus de marge de manœuvre en termes de profitabilité pour avoir un service online de meilleure qualité. Moi, j'ai jamais eu de problème, mais je m'en suis très peu servi. Est-ce que ça va permettre d'avoir des investissements dans l'infrastructure ? On verra.
Ouais, à mon avis, le problème, c'est pas un manque de moyens hein, dans l'infrastructure, c'est un manque de compétences ou parfois même de volonté. Parce que si. C'est marrant parce que le jeu en ligne, par exemple, sur Nintendo Switch, c'est. Ça n'inclut pas vraiment, enfin, c'est pas par la console qu'on passe pour chatter en ligne, mais ça, je pense que c'est pour protéger les enfants. Mais il faut passer par l'application mobile pour chatter, et donc ça fait partie du service, mais c'est quand même pas inclus dans le truc. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais bon. Je crois que c'est simplement Nintendo qui veut, qui trouve des moyens de tirer plus d'argent, comme toutes les boîtes du monde. Tu vois, c'est juste qu'ils se sont dit, OK, on l'a lancé à 20 euros à un moment où la Switch était vraiment un challenger et on était, c'était pas sûr que l'abonnement prenne parce qu'il y en a déjà beaucoup d'autres. Et donc, on l'a fait pas très cher du tout. C'est 4 euros par mois ou alors 20 euros par an. Et donc, c'est pas cher du tout. Donc, les gens l'ont pris. Mais aujourd'hui, la Switch est un succès interplanétaire. On aimerait bien essayer d'avoir un petit peu plus d'argent de ses revenus réguliers. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le Switch Online plus pack additionnel n'est disponible que pour abonnement d'un an. Tu ne peux pas t'abonner juste pour un mois. Donc, tu es obligé de t'engager pour un an. Mais bon.
Et finalement, tu vois aussi, si tu regardes en termes d'échelle, s'il y a, un client d'Animal Crossing sur 1000 qui décide de prendre cet abonnement, bah, ça fait quand même 26 000 fois 40 euros à la louche. c'est conséquent, c'est quasiment 1 million. Donc,
bien sûr.
Rien que ça. Et une personne sur 1000, je pense que c'est vraiment être très, très conservateur sur le nombre de personnes qui vont se dire, ah, c'est une affaire incroyable, j'économise 5 euros, je pourrais jouer au DLC et après, tant pis.
C'est ça, bah, c'est même pas le truc, c'est t'as même pas besoin de te dire c'est une affaire incroyable. Tu te dis, bon, bah, je veux le DLC, il y a l'abonnement comme ça. Encore une fois, je crois qu'avec seulement le DLC d'Animal Crossing, c'est un peu spécifique parce que le DLC à 25 euros, comme tu le disais, tu le gardes pour toujours. Là, ça te coûte 20 euros de plus que ton abonnement online classique. Tu peux te dire, bon, bah, je vais prendre le DLC à 25 euros et je suis tranquille. Mais quand il y aura plusieurs DLC inclus dans le pack, ça pourra être plus intéressant peut-être. Et justement, parlons du DLC d'Animal Crossing. Alors, il y en a deux, en fait. Il y a deux DLC. Il y a d'une part le DLC gratuit qui arrive bientôt, là, en novembre. Si je ne m'abuse, le 5 novembre, je crois, quelque chose comme ça. Oui, c'est ça. Et cette partie du DLC amène plein de choses, mais il y a le café, il y a la bouffe, il y a plein de trucs du genre, et ça sera gratuit pour tout le monde. Mais le gros morceau, c'est donc le DLC payant qui s'appelle Happy Home Paradise, qui permet de designer des maisons. On va travailler pour des gens qui veulent des maisons d'un type spécifique. Et on va aller arranger des maisons, designer l'intérieur. C'est designer d'intérieur, en fait. Et tu vas pouvoir mettre les meubles, les décorations, l'éclairage, enfin, de personnes qui veulent que tu leur fasses leur maison. Et c'est... Alors, comme on le disait, moi, je suis pas très Animal Crossing, mais c'est pile dans l'esprit de Animal Crossing et dans l'esprit un peu... Alors, je parle j'utilise des mots suédois, mais c'est le mus, c'est le truc où t'es tranquille chez toi avec le feu de cheminée, avec un petit glug, comment ça se dit en français, un vin chaud.
Un grog.
Un grog, voilà, avec ton vin chaud, et t'es en train de faire ton truc sur ta console tranquillou, c'est paisible, c'est pas un jeu où tu vas aller massacrer des aliens, t'es juste en train de poser les différents meubles et de choisir quelle harmonie tu vas créer dans la maison de la personne qui t'a demandé de l'arranger. C'est très Animal Crossing, hein. C'est Animal Crossing, Animal Crossing, quoi. Donc voilà, ça arrive. Ça arrive quand déjà, cette extension? Je me souviens plus. J'ai plus la date en tête, mais j'imagine que ça devrait pas tarder non plus. Je me souviens plus. Ouais. Je vais essayer de regarder. Mais donc, toi, c'est un truc qui te parle, cette extension ? T'es pas Animal Crossing ?
Non, honnêtement, je préfère bosser de jouer à ça, mais... c'est vraiment, vraiment pas pour moi.
D'accord. Bon, je vais pas te forcer à en dire du mal, alors.
Mais bon, il y a 26 millions de personnes qui... voilà. Ouais. Mais il y a 26 millions de personnes qui doivent être ravies, je pense. Ou peut-être, je sais pas si les 26 millions ont aimé, mais déjà, s'il y a 13 millions de personnes qui vont être intéressées par ce contenu, c'est énorme. C'est énorme.
Bah, voilà. Non, mais exactement, exactement. C'est vraiment... Et c'est pour ça que je dis c'est très Animal Crossing, parce que les gens qui l'aiment déjà, Animal Crossing, et l'aspect vraiment tranquille, paisible, c'est exactement ce dont tu rêves dans ton Animal Crossing, en fait. Ça me paraît hyper adapté. Et la variété de tout ce que tu peux faire est vraiment impressionnante. Tu peux vraiment changer les maisons et construire des maisons. Et tu peux aller visiter les trucs que les gens ont fait. Enfin, bref, c'est...
Ce qu'ils montrent dans les vidéos est très impressionnant. Hein. Ça a l'air vraiment varié et riche. Pour les gens qui aiment, je pense que c'est le DLC de l'année.
Il semble que c'est en même temps que le DLC gratuit, ce qui est logique, donc le 5 novembre. Et à ceux qui disent que j'ai convaincu les membres de leur famille qu'il fallait l'acheter, je suis désolé, mais c'est comme ça. La puissance d'Animal Crossing ne peut pas être évitée, donc vous pouvez aller vous plaindre auprès de Nintendo. Je ne prends aucune responsabilité. Donc ça, c'est... Animal Crossing, il y a aussi eu un autre événement relativement moins important dans le monde du jeu vidéo, mais tout de même, c'était le DC Fandom, qui touche pas que le jeu vidéo, évidemment, mais qui touche aussi le jeu vidéo. Le DC Fandom, c'est l'événement de DC qui parle bien sûr de comics, les comics DC, Superman, Batman, etc. Et qui parle aussi des films. Il y a eu quelques trailers à voir, certains étaient intéressants, certains moins. Et aussi, les deux jeux qu'on attend l'année prochaine de la part de DC, qui sont d'une part Gotham Knights et d'autre part Suicide Squad, Kill the Justice League. Le premier, donc Gotham Knights, c'est celui qui devrait arriver le plus tôt. Il était prévu à l'origine pour cette année et il a été décalé à l'année prochaine. On n'a pas eu de date, mais a priori, ça risque d'être annoncé. La date risque d'être annoncée. Moi, je la vois bien annoncée au Game Awards en début décembre. Donc, et comme Kill the Suicide Squad arrive, il disait en novembre, quelque chose comme ça, il ne faut pas qu'ils attendent trop, donc j'imagine peut-être mars, parce que... Enfin, non, tant qu'à faire, tous les jeux sortent en février, donc ils vont aussi sortir en février. Hein. Il n'y a pas de raison. Il y a une place à prendre en janvier, ceci dit. On en parlera tout à l'heure, en faisant pleurer certains des auditeurs, mais il y a une place désormais à prendre en janvier. Bon, donc peut-être qu'ils vont faire ça, si c'était déjà prévu. Peut-être qu'ils réussiront à s'y tenir. Mais donc, Gotham Knights, c'est... dans l'univers des jeux Arkham, ce qui est un petit peu... Pardon, c'est pas dans l'univers des jeux Arkham, contrairement à Suicide Squad, ce qui est un peu bizarre parce que Gotham Knights, c'est vraiment, on joue tous les jeux, on joue tous les personnages de l'univers Batman, c'est-à-dire tous les Robins en fait. Il y a Batgirl, il y a Red Hood, il y a Nightwing et il y a Robin. Et on peut jouer donc, on peut changer entre les différents personnages. Et surtout, on peut jouer en coop. C'est la grosse nouveauté de ce jeu-là. Et il est développé par WB Montreal, donc Warner Bros. Montréal. Et contrairement à Suicide Squad, qui est développé, lui, par le développeur historique des Arkham, qui est Rocksteady Studios. À noter que Montréal, bon, l'anglais c'est difficile. Montréal avait développé Arkham Origins, qui n'était pas considéré comme le meilleur Arkham. Mais bon, là, il a l'air sympa. Ils ont montré un nouveau trailer. Moi, je trouve ça. Je suis client du truc parce que j'adore les Arkham. Je trouve que c'était d'excellents jeux de Batman. Enfin, je pense qu'on est assez tous unanimes là-dessus. Et je suis assez curieux de voir ce que va donner celui-là. J'ai assez hâte. Et accessoirement, il est dans l'histoire du truc, c'est avec le Court of Owls, la cour des chouettes, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais c'est une société secrète dans Gotham qui tire les ficelles de tout le monde. Et les chouettes, c'est les prédateurs naturels des chauves-souris, donc machin, etc. Bon. Et dans l'histoire, Batman est mort et donc on doit prendre sa suite avec les différents Robin. Et j'imagine que Batman n'est pas vraiment mort, mais on verra. Est-ce que c'est un jeu que tu attends? Il arrive bientôt là, a priori, hein, ça devrait être début d'année. C'est un jeu qui t'intrigue ou c'est pas ta tasse de thé non plus?
J'aimais bien les Arkham, les deux premiers surtout. Hein, c'était, je me souviens plus de leur nom.
Asylum et City.
Voilà, Asylum et City était super, et à l'époque, en plus, c'était de très très loin les meilleurs open world de super-héros, en plus, qui existaient. C'était même de très bons open world tout court. Celui-là, je l'attends moins, parce qu'il y en a eu 50 millions des open world depuis, donc c'est moins excitant. Ce que j'attends, c'est surtout le côté coop, voir comment ça se passe, et quel est l'impact sur le gameplay, le fun. Pour y jouer en solo, sinon j'y jouerais un petit peu, j'aurais regardé, mais c'est vraiment le côté coop qui m'interpelle le plus, parce que sinon le reste, bon, des open world de super-héros, il y en a eu des millions depuis.
Je suis assez d'accord, le truc le plus intriguant, c'est peut-être le jeu pour lequel j'essayerai de me forcer à essayer de jouer au moins un petit peu en coop. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner, parce que le système des Batman est quand même un truc qui a été repris absolument partout. C'est un système fondateur de ce type de jeu, le système où on appuie sur un bouton et ça donne tous les coups de poing et ça fait tous les mouvements spectaculaires. Enfin, on l'a revu absolument partout, jusqu'à Spider-Man il n'y a pas si longtemps. Mais la coop, ça pourrait amener un truc vraiment intéressant, parce que si on peut avoir le fun de ce système de jeu avec un ami ou une amie avec laquelle on joue, ça peut être vraiment une approche un peu différente du truc. Et puis en plus, les jeux restent sympas. Ça fait un moment qu'on n'en a pas eu un depuis Arkham Knight, qui était quoi, 2017, je crois. Donc moi, je suis prêt. Enfin, je suis toujours prêt pour les Arkham, même si j'ai pas fait Origins, donc c'est pas tout à fait vrai. Mais donc oui, à voir effectivement ce que ça donnera avec le système de coop. Ça peut aussi tout à fait se planter. Hein. C'est très possible.
Oui, oui, oui. Et j'espère surtout, enfin, qu'ils vont essayer de changer un peu la philosophie des open world de ces dernières années, où t'as un million de trucs à faire partout, prendre des photos des immeubles, aller sauver le chat de la voisine qui est coincé dans l'arbre, pour se concentrer peut-être sur une expérience un peu plus courte mais intense.
On me dit dans la chatroom, c'est 2015 Arkham Knight. Putain.
Oh déjà.
C'est... Ouais, wow. C'est... Le temps passe.
Moi, je pensais
clairement
qu'il datait de l'année dernière. Tu
ouais,
vois,
quelque chose comme ça.
C'est passé trop vite. Hein.
Ouais. Par contre, pour l'innovation dans la structure du jeu, je crois que c'est pas du côté de Gotham Knights qu'il faudra chercher, parce que, comme on le disait, Origins n'était pas le jeu le plus incroyable. Alors peut-être qu'ils ont pris de l'expérience et qu'ils vont faire quelque chose de vraiment différent et intéressant, mais c'est tellement un élément important de ces open world pour donner des trucs à faire aux gens. Une fois que t'as construit ta ville immense et que t'as fait ta quête principale et quelques quêtes annexes, tu fais du remplissage et tu mets des trucs à collectionner et à aller chercher. Si les gens veulent pas le faire, ils sont pas obligés, mais pour ceux qui le font, c'est facile de rajouter du contenu à ton jeu comme ça. Donc moi, je crois que ça risque d'être là, mais ça gêne pas. Si tu veux pas le faire, tu le fais pas, quoi.
C'est ce qu'on dit, mais tout le monde dit, mais moi par contre, je me fais souvent avoir et je me dis, oh non, il faut que je commence la collection, machin, sinon je vais peut-être rater quelque chose de terrible. Et après, je me lasse au bout d'un moment et j'arrête le jeu parce que j'ai perdu le fil de l'histoire. Je me souviens même plus de ce qui se passe tellement j'ai pris des photos d'immeubles et sauvé des petits chats.
On me dit dans la chatroom, mais non, dans la cour des hiboux, dans le comics, Batman, il est pas vraiment mort. D'une part, évidemment que je suis sûr que Batman est pas vraiment mort, mais je crois bien qu'il dit qu'il est mort. Alors peut-être qu'il dit pas explicitement « je suis mort », mais il envoie un message genre « en cas de disparition ». Enfin bon, bref, on verra, c'est un détail
et
de truc. Il y a
un super-héros qui meurt dans une série un jour, un personnage important, quelle qu'elle soit, je ne crois pas.
Invincible, je te recommande de lire Invincible,
Oui, je les ai lus. Et la série d'animation sur Amazon Prime est et d'un bon niveau aussi.
Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Bon, clairement, chez DC et Marvel, ils ont tendance à pas tuer un super-héros, ce qu'on peut comprendre, puisque un super-héros mort, c'est un super-héros que tu ne peux plus vendre en comics. Donc, il y a pas de raison de se priver de la manne. Mais l'autre jeu qui est peut-être un peu plus intéressant encore que Gotham Knights, même si je l'attends, hein, ce Gotham Knights, c'est Suicide Squad, Kill the Justice League. On a vu un trailer, je crois qu'on n'avait pas vraiment eu d'image du jeu avant. Si je ne me trompe pas, je vais revérifier, mais je crois qu'il ne sort que sur PS4 et PS5 et sur Xbox Series X. Ouais, c'est bien ça, donc en 2022. Et ça sera un des premiers jeux vraiment next-gen. Alors, le trailer, c'est peut-être pas... c'est très beau. Peut-être qu'en regardant bien, on se dit « Ah oui, ça peut être fait que sur la next-gen. » Mais bon, c'est pas non plus le truc qui est totalement hallucinant de... C'est vrai qu'en regardant bien, bon, tu te dis que ça peut pas tourner sur la gen précédente. Mais au-delà de ça, le truc qui est intéressant dans ce trailer, c'est que ça met... une ambiance qui est très différente de ce qu'on voit généralement dans les jeux de super-héros. C'est quatre super-vilains, pour ceux qui ne savent pas, le Suicide Squad, c'est un groupe dans l'univers de DC Comics qui est composé de méchants, et ces méchants ont un deal avec le gouvernement pour faire ce que demande le gouvernement contre une réduction de leur peine de prison. Et là... ils sont pas juste en train d'aller faire des missions genre, aller récupérer tel ou tel truc dans un pays éloigné ou ce genre de truc. Ils doivent, comme le titre l'indique, tuer la Justice League. La Justice League, c'est le groupe des Avengers de DC. Et alors, il y a Batman, à la limite, tu peux imaginer que tu peux tuer Batman. Mais il y a aussi Wonder Woman, Flash et Superman. Et alors, comment est-ce que Harley Quinn, avec sa batte à clous, va réussir à tuer Superman ? Tu te dis qu'il va y avoir une histoire de kryptonite à un moment. J'aimerais bien qu'ils évitent le truc de la kryptonite, mais c'est tellement délirant comme concept, et je suis sûr que ça a été déjà fait en comics ou un truc du genre, mais c'est tellement ridicule qu'en concept que... Et Green Lantern, on précise, merci Max. Et Green Lantern aussi, c'est pas qu'il a des petits pouvoirs, quoi. Mais c'est tellement ridicule comme concept que... j'ai envie de voir ce qu'ils vont en faire, quoi, parce qu'évidemment, ça sera pas sérieux, mais c'est vraiment les petits underdogs qui vont essayer d'aller tuer les dieux. Et eux, ils sont, genre, pour vous donner une échelle de ce qu'ils font, il y a donc Harley Quinn qui a littéralement aucun pouvoir, elle est juste folle et elle a une batte de baseball. Il y a King Shark qui est une sorte de requin humanoïde, mais à ma connaissance, il fait rien de spécial. Il y a un type qui tire très très bien. Et le dernier, c'est qui ? Ah oui, Captain Boomerang, l'Australien qui lance des boomerangs. Donc, ça me paraît quand même assez amusant comme idée. Et je suis très curieux de voir où ça va aller. En plus, comme on le disait tout à l'heure, c'est Rocksteady qui avait créé les Arkham et le premier. Donc, c'est vraiment le gros morceau là où on se dit, s'il y a des choses intéressantes qui vont être faites au niveau du design, du game design et du gameplay, c'est peut-être de ce côté que ça va arriver. Ça t'intrigue plus
Oui, c'est plus original, je pense, en tout cas comme approche. Et ce que j'espère, en fait, secrètement, c'est qu'ils auront une approche décalée justement par rapport aux Arkham Knight. Ils sont très sombres, très noirs. New York, la vie est dure, etc. Les méchants sont partout, là. J'espère que ça va être un délire, un gros délire fun. Et effectivement, si on peut vaincre Superman avec une batte à clous et des boomerangs sans avoir besoin de kryptonite ou quoi que ce soit, tant mieux, parce que finalement, ça change.
Ouais, je suis assez d'accord. J'imagine bien le truc avec la kryptonite qu'ils doivent aller trouver. Et puis, tu fais toute une mission pour essayer d'aller la chercher. Et puis, à un moment, quelqu'un la lâche et elle tombe dans un volcan, un truc du genre. Et donc, il faut trouver une autre solution. Tu vois, donc, ils vont te faire croire que tu vas le faire classique avec la kryptonite. Et puis... au final, ça va pas être possible et ça va être drôle. En même temps, sans kryptonite, je sais pas comment on tue Superman. Hein. À moins d'invoquer Darkseid, je sais pas. Donc, bref. Donc ça risque d'être assez sympa. Il y a un autre truc que je voulais dire sur ce jeu. Non, je crois que c'est à peu près tout. Hein. Peut-être une petite remarque. j'ai eu l'impression que les avis étaient plutôt positifs sur celui-là, alors que sur mon chouchou qui arrive la semaine prochaine, le j'ai déjà oublié son nom, le Guardians of the Galaxy, tout le monde disait oh, ça va être pourri, ça va être nul, alors que c'est finalement un petit, ça a l'air d'être un petit peu le même esprit, un petit peu rigolo, un petit peu délirant, et puis on n'a pas vu beaucoup de gameplay, donc. Je comprends pas pourquoi les gens pensent que celui-là va être sympa et dans le même temps pensent que Guardians of the Galaxy va être pourri. Bon, en même temps, on aura la réponse la semaine prochaine pour Guardians of the Galaxy. Ça se trouve, il va être pourri. Mais bon. Alors, de quoi on va parler maintenant ? Je vous propose qu'on parle des gens qui sont les plus formidables de cette planète, où, bon, alors, les gens qui sont vraiment formidables, c'est les gens qui œuvrent contre la pauvreté, la faim dans le monde, le réchauffement climatique, voilà, tout ça. Mais juste derrière, il y a les gens qui soutiennent les créateurs qu'ils apprécient. Ça, c'est quand même assez indéniable. Et parmi ces gens-là, il y a les gens qui soutiennent le rendez-vous jeu. Et si vous voulez faire partie de ces gens qui sont pas tout à fait aussi formidables que les gens qui œuvrent contre la faim dans le monde, mais qui sont quand même très très cool quand même, eh ben vous pouvez aller sur patreon.com/rdvjeux et devenir quelqu'un qui aide cette émission à exister. Parce que l'émission, elle n'existerait pas sans les gens qui la soutiennent financièrement. Vous pouvez choisir la somme que vous voulez, le prix d'un croissant, le prix d'un café, le prix d'un sandwich, et à la fin du mois, vous êtes débité de la somme totale et... C'est aussi simple que ça, c'est terminé, vous n'avez plus à vous en soucier, sauf que vous pouvez vous arrêter absolument quand vous voulez. C'est pas comme ces trucs de Nintendo Switch Online avec abonnement pour un an obligatoire, non. Là, vous pouvez vraiment décider combien de temps vous soutenez. Si vous voulez vous arrêter, il n'y a pas de problème, mais je sais que vous voudrez continuer pendant un moment parce qu'il y a non seulement des avantages cool comme les émissions sans pub, sans ces petites promos au milieu, les timecode dans le flux privé, des épisodes spéciaux avec des bonus, des éditos, tout ça. Mais en plus, c'est surtout le fait que vous savez que le contenu que vous aimez bien, eh ben vous êtes quelqu'un d'actif et de cool qui l'aide à exister. Entre parenthèses, si vous vous créez un petit compte sur Patreon, sachez qu'il y a beaucoup de créateurs français et francophones qui sont aussi sur Patreon. Moi, j'ai un petit budget que je réserve au soutien des créateurs et donc je le distribue comme ça à différents créateurs que j'aime bien. Alors, je dis petit, il est un petit peu élevé parce que j'aime bien soutenir les gens, mais vous pouvez tout à fait faire de même si vous le souhaitez. Merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu sur Patreon.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parlons un petit peu de jeu, Dani. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on commence par les nouveaux jeux auxquels j'ai testé un peu rapidement, ou est-ce qu'on reparle encore un petit peu de Metroid Dread puisque tu y joues? Tu sais quoi? Je vais répondre moi-même à cette question. Je vais dire qu'on va parler des jeux que je viens de tester pour changer un petit peu, et puis on reviendra sur Metroid Dread dans un moment.
Pour la huitième fois. Ouais,
pour la huitième fois, exactement. Ouais. Le premier jeu, il y en a deux en fait. Il y a Rift Breaker et Wilder Myth. Rift Breaker, c'est un jeu que j'ai testé parce que, comme je le fais parfois, j'avais une heure de libre et j'ai lancé le Game Pass et j'ai vu ce qui se passait dessus. et j'ai vu Rift Breaker. A priori, je me suis dit, ah, attends, un truc, c'est pas pour moi, c'est un truc de construction de base. Ça a l'air d'être un jeu de stratégie. Sur console, en plus, ça va être bizarre. Bon, c'est pas vraiment pour moi. Et puis, il y avait une accroche du genre entre construction de jeu, construction de base, construction de ville et action RPG. Et là, je me suis dit, attends, mais c'est un concept intéressant, intriguant en tout cas. Et je l'ai lancé et de fait, c'est en partie construction de ville, à là un petit peu SimCity, un peu simplifié, mais pas tant simplifié que ça, et action RPG qui défend la ville dans un système un peu tower defense en fait. Et donc, on joue un soldat, une femme qui atterrit sur une planète alien, qui est dans une armure, dans un énorme mec qui a une intelligence artificielle et qui doit un petit peu coloniser la planète en question. Et ça commence comme un type de jeu de construction un petit peu classique, sauf qu'on contrôle tout avec la manette. Et donc, on doit collecter des ressources, il y a des minerais, il y a de l'énergie, il y a de la matière organique, etc. Et bon, c'est assez classique, on doit collecter tout ça pour construire de plus en plus de bâtiments. Pour donner l'équivalent le plus simple, c'est un peu à la StarCraft, on va dire. Et périodiquement, il y a des ennemis, des aliens qui vont venir attaquer nos infrastructures. Et quand ça se produit, eh ben, il faut aller nous seuls, en tant que badass, nana badass dans le méca, les massacrer avec notre lance-flamme, notre fusil, des armes qui vont être upgradées. On a une grosse épée, évidemment. Et on va aller les massacrer. Et franchement, c'est étonnamment efficace. Le contrôle, ils ont réussi à faire à la manette le contrôle d'un truc aussi complexe que ça, qui fonctionne vraiment, vraiment bien. On peut contrôler tous les bâtiments, les upgrader, choisir le type de bâtiment. Enfin, c'est vraiment hyper bien foutu au niveau de l'interface et c'était pas facile à réussir. Et au-delà de ça, le jeu de gestion, bah, il est simple, mais il fonctionne. Et le jeu de combat, la partie action, bah, elle fonctionne aussi pas trop mal, surtout que c'est pas juste un action RPG à la Diablo, ce qui serait quand même difficile à réussir aussi bien que les originaux, mais c'est vraiment type Tower Defense, donc il y a une partie de stratégie aussi. C'est vraiment un jeu sympa, qui est... Alors, j'ai pas beaucoup joué, comme je disais, mais de ce que j'en ai vu... C'est sympa, ça fonctionne bien. Le reproche que je lui ferais, ou le potentiel reproche, c'est que au final, on a une certaine complexité dans la construction de la base, et en fait, c'est plusieurs jeux différents qui se font concurrence un petit peu. Donc je pense que si on n'aime pas, si on n'aime qu'un des deux ou trois types de jeux que ce jeu est, on risque de pas accrocher parce que c'est pas que les deux sont suffisamment entremêlés pour que le fun de l'un se retrouve dans l'autre. C'est vraiment deux types de jeux qui sont... C'est deux jeux en parallèle, quoi. Donc, c'est le reproche que je lui ferai peut-être. Mais vu qu'il est sur Game Pass et que bah, il est disponible sur Game Pass, je me dis si c'est un concept qui peut vous tenter, Rift Breaker ou The Rift Breaker, ça peut être un jeu à tester parce que c'est assez fun. Dany, toi, t'aimes bien les Diablo, t'aimes bien les StarCraft peut-être ? Est-ce que c'est un jeu qui te tente ou ce genre de mélange, en fait, c'est trop casse-gueule ?
Non, j'en avais entendu parler. J'en avais pas entendu parler. Donc là, honnêtement, tu m'as intrigué. Je vais voir ce que ça donne. Ça peut être amusant et ça a l'air assez joli, riche et au moins pour jouer quelques heures.
C'est ça. C'est peut-être pas un jeu sur lequel tout le monde va passer 20 heures, mais je pense que pour quelques heures, ça peut vraiment être un moment de fun, quoi. L'autre jeu que j'ai testé, c'est Wilder Myth. Est-ce que tu as entendu parler de celui-là, Wilder Myth ?
J'en avais entendu parler, il m'avait intrigué, je ne l'ai pas encore essayé. Il avait l'air sympa. Alors, qu'est-ce que tu en penses ?
Bah écoute, je suis assez agréablement surpris. En fait, c'est un jeu dont j'entends parler depuis au moins des semaines, peut-être même des mois. On me signale dans la chatroom qu'il est disponible ailleurs que sur le Game Pass, le jeu dont je parlais, le Rift Breaker. Effectivement, il est dispo, et je l'avais même mis dans mes notes, PC, Xbox, PS5 et Game Pass. Donc, il est dispo un petit peu partout. Peut-être pas PS4, je sais plus, je crois que c'est Xbox Series X et S et PS5. Peut-être qu'il n'est pas dispo sur les consoles de génération précédente. Wildermyth, par contre, faudrait confirmer, mais Wildermyth, par contre, c'est vraiment uniquement sur PC, c'est que sur Steam, si je ne m'abuse. Et c'est un jeu qui est vraiment particulier et différent. C'est même un petit peu difficile à décrire, mais j'en entendais parler depuis des semaines, voire des mois, et l'esthétique m'avait pas emballé, et donc je m'étais dit, bon, ça c'est pas un truc pour moi, même s'il est bien, je suis pas sûr que ça va me plaire, et donc je l'avais pas testé. Mais il y a d'autres personnes qui en ont encore dit beaucoup de bien il y a une semaine dans un podcast que j'écoutais. Je sais plus si c'était DLC ou The Giant Bombcast, mais ils en ont encore dit du bien, et la manière dont ils en parlaient, ça m'a donné envie de le tester enfin, et donc je suis allé l'acheter sur Steam. C'est un jeu qui est le plus proche que j'ai vu d'un jeu de rôle modélisé sur ordinateur. Un jeu de rôle pen and paper, genre on se retrouve à la table avec des amis, et c'est modélisé sur l'ordinateur. On joue plusieurs personnages différents avec une feuille de création de personnages où on va pouvoir les customiser. Graphiquement, c'est pas moche, mais moi, ça me parle pas énormément. C'est comme des petits personnages découpés dans du papier. C'est des marionnettes de papier, en quelque sorte. Et tout le décor a cette esthétique, enfin tout le jeu a cette esthétique, tout sort d'un livre, tout a été découpé d'un livre avec des histoires à découper, les maisons, les arbres, les pierres, tout ça. Et à la base, je vais continuer sur l'aspect jeu de rôle, mais à la base c'est un jeu de stratégie, tour par tour, avec les cases, hein, classique, mais l'enrobage, c'est donc un jeu de rôle où on joue plusieurs personnages, on peut créer son personnage avec une feuille de personnage et on peut créer, changer l'aspect, changer les caractéristiques, etc. Et c'est j'ai oublié de mettre le trailer, c'est Wildermyth, Wildermyth. Donc c'est Wildermyth et on crée notre personnage, on va le lancer en jeu, on choisit sa... je sais pas si on choisit sa classe, mais on choisit sa spécialisation. Pendant quelques minutes, c'est juste ça, mais très vite, on rencontre d'autres personnages qui vont rejoindre notre équipe. Et dès ce moment, au bout de, je dirais, 10 minutes de jeu, on va devoir choisir la relation entre les personnages. Entre les deux premiers personnages. On va dire, est-ce qu'ils sont amis? Est-ce qu'ils sont amoureux? Est-ce qu'ils sont rivaux? Et là, déjà, tu sens un petit truc. Tu sens qu'il y a un petit truc qui est un peu différent. Et à vrai dire, dans l'esthétique du jeu et même dans la conception du jeu, c'est très, très PC comme jeu. Hein. Donc, c'est pas un jeu qui est forcément pour tout le monde. C'est un petit peu touffu avec des menus, même si c'est introduit de manière assez compréhensible au départ. Mais donc, on a ces premiers choix qui sont intrigants. On va choisir comment on va agir. Est-ce qu'on va être plutôt agressif? Est-ce qu'on va être plutôt discret? Est-ce qu'on va explorer longtemps une zone, etc. Et c'est vraiment des questions qui sont posées un petit peu comme on pourrait les imaginer de la part d'un maître de jeu à une table de jeu de rôle. Alors évidemment, c'est pas qu'on peut dire absolument tout ce qu'on fait comme dans un vrai jeu de rôle, mais c'est présenté un petit peu de cette manière, avec en plus le fait que c'est écrit, chaque petite partie du jeu est écrite par un auteur qui est un petit peu mis en avant. Genre, on a l'histoire, cette mission écrite par telle ou telle personne. Et c'est vraiment, on a des scènes, des petites scénettes avec un petit peu comme une BD où on va suivre l'histoire, qui sont vraiment écrites de manière assez intéressante. Et puis la description des personnages est écrite de manière intéressante, les choix sont conçus de manière intéressante, etc., etc. Et tout ça, c'est, je dirais, la partie, pas micro, mais en fait, il y a une partie micro qui est le jeu de stratégie tour par tour. La partie milieu qui est les choix qu'on va faire, les zones qu'on va explorer. Et puis, il y a une partie macro à laquelle je n'ai pas encore beaucoup touché, qui est le passage du temps. Et ça, c'est ce qui rend le jeu, j'ai l'impression, vraiment spécial. C'est que chaque chose qu'on va faire va prendre quelques jours à faire, parfois un petit peu plus longtemps. Et le temps passe, saison, enfin jour, saison, année, et nos personnages vieillissent. Et les personnages vont vieillir et avoir des enfants et avoir plusieurs générations. Et au fur et à mesure que les générations se succèdent, eh ben, les personnages d'origine vont avoir leur légende qui va encore être présente, on va avoir une histoire avec les familles, on va avoir... Il y a plusieurs territoires, ça se dézoome presque à un truc comme un jeu de risque, avec les différentes zones qu'on va aller explorer, etc. Et donc, il y a toute cette ampleur d'une aventure de jeu de rôle qui est retranscrite dans le jeu et qui semble, alors là encore, c'est un jeu que j'ai pas fini, hein, mais qui semble être vraiment réalisé de manière intelligente, drôle et réussie. Et il y a plein de choses dont je pourrais parler. Le système de magie est intéressant. Quand on me le décrivait, je trouvais ça un peu bizarre, mais en y jouant, c'est vraiment convaincant. Pour faire de la magie, on doit infuser des objets qu'il y a dans le décor. Et chaque objet fait un type de résultat différent quand il est infusé. On peut infuser une pierre, un arbre, une table, enfin, etc. C'est très original, c'est assez marrant. Et dans l'ensemble, le jeu, c'est, j'ai l'impression que c'est une petite gemme. J'ai jamais vu plein de choses qu'il fait. Je les ai jamais vues ailleurs ou pas implémentées comme ça. Il y a des éléments classiques, certainement, mais il y a des éléments très originaux et très intéressants. Et je me dis que c'est peut-être un jeu qui vaut le coup d'être testé. Comme Riftbreaker, il coûte genre 20-25 euros, quelque chose comme ça. Donc, c'est pas un jeu à 50, 60 ou 70 euros. Et je crois qu'il pourrait plaire à beaucoup de gens. Je pense qu'il faut un peu de temps quand même, donc si vous êtes très occupé, c'est peut-être pas le jeu pour vous, mais ne serait-ce que pour le tester, pour savoir de quoi il en retourne, je crois que ça peut valoir le coup. Ça s'appelle Wilder Myth et c'est disponible sur Steam. Toi, t'es un grand fan de jeux de rôle, Dany, est-ce que ça te tente ce truc ou...
Oui, tout à fait, je viens de l'ajouter sur ma wishlist de Steam, donc dès qu'il y aura des soldes, parce que je suis trop radin pour dépenser, il y a 19 livres, 49 ici, je suis bien trop radin.
C'est comme ça qu'on devient riche, Dany, c'est en étant radin qu'on devient riche.
Voilà.
Très bien.
Mais ouais, je vais l'essayer. Ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil. J'ai complètement oublié même qu'il existait. Et voilà. Donc là, je vais m'y mettre. En plus, toi, ton descriptif, ton expérience est assez positive. Donc je vais clairement l'essayer.
Super. Effectivement, il est sorti il y a peut-être 3-4 mois, quelque chose comme ça. Et dans la chatroom, on nous dit pas fan de la DA du gameplay. La DA, à vrai dire, moi, je suis pas fan non plus. Et la DA, j'avais peur que ça me rebute vraiment. Et le gameplay, bon, c'est pas vraiment un truc ça me dérange pas plus que ça le tour par tour, mais c'est pas mon type de jeu préféré. Mais là, sur le début en tout cas, c'était suffisamment dynamique, suffisamment bien fait, et la DA m'a pas du tout autant rebuté que je pensais. Parce que je crois que l'humour qui passe dans le jeu, parce que c'est assez drôle, l'humour qui passe dans le jeu est tellement cohérent avec la DA qu'ils ont que, je sais pas, ça fait que le tout passe vraiment crème, quoi. C'est hyper fluide comme expérience. Donc voilà. Je saurais pas vous dire s'il est en version française. Moi, je joue au jeu en anglais. J'imagine que c'est que du texte, hein. Il n'y a pas de lecture enfin, il n'y a pas de voix, voice actor, d'acteur. Donc, j'imagine que c'est traduit en français, mais j'ai pas vérifié par moi-même. Voilà pour les jeux que j'ai testés. Dany, toi, tu joues à Metroid Dread et je suis sûr que c'est ton jeu de l'année.
Bah, disons que Metroid, en fait, il n'y en a pas eu depuis des lustres. Le dernier, c'était un remake de Metroid 2, je ne sais plus, je me souviens plus du titre, qui était sur Game Boy, qui a été donc remasterisé sur Nintendo 3DS, qui était très bien. Et donc là, oui, c'est probablement un de mes jeux de l'année, même si il est imparfait. L'expérience de Metroid est toujours... présente, riche, le gameplay varié, fun. Samus Return, c'est ça, exactement, Johan. Merci, tu as une bonne mémoire. Et franchement, c'est pas une surprise. Il va pas changer forcément la formule Metroid, mais en contrepartie, on retrouve tous les éléments qui faisaient que Metroid est un jeu d'exploration, je trouve, excitant, varié et riche.
Alors, on en avait déjà beaucoup parlé, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je vais pas m'attarder trop longtemps non plus, parce que on en parle depuis des semaines. Moi, je trouve qu'il change quand même la formule un petit peu avec son, avec la partie, justement, avec les ennemis où tu es hyper stressé et ce genre de truc.
C'est celle que j'ai trouvée la moins intéressante, en fait. Je sais pas pourquoi, il y a un truc dans le gameplay ou la proximité de la caméra sur la carte qui fait que ils sont pas faciles toujours à repérer de là où ils viennent. Ils sont tellement rapides que des fois ils tombent dessus, tu l'as même pas vu venir. Et en fait, cette partie-là, ça aurait été, à mon avis, plus intéressant s'il y avait cette pression-là, mais que t'aies plus d'options pour t'enfuir que juste mémoriser le chemin qu'il faut prendre sur la carte pour aller le plus vite possible. Et
voilà. Mais c'est pas comme ça qu'il faut jouer. Tu vas pas le plus vite possible. T'attends, tu le laisses passer en te rendant invisible et puis
tu es invisible pendant une seconde et demie. Ensuite, tu fais deux pas, il t'entend et là, il te tombe dessus. Non, pas mieux.
Ah, mais moi, j'y arrive très très bien. Moi, j'y arrive très très bien. Je vais pas à fond. Mais bon, peut-être que tu es plus loin dans le jeu que moi et que les ennemis plus loin sont beaucoup plus terrifiants. Je dirais que, comme je disais, j'y joue depuis un moment. De plus en plus, je suis frustré par les moments où tu sais plus où aller. Je dirais 3 ou 4 fois là. Je me suis retrouvé à... Et pourtant, le jeu est linéaire. En tout cas, jusqu'à là où j'en suis, je suis à la 4e zone. C'est quand même assez linéaire comme jeu. Tu as un chemin à suivre et il te pousse dans cette direction. Et souvent, tu peux plus revenir en arrière. Il y a le truc qui est tombé, le mur s'est effondré, etc. Il y a de la lave partout. Enfin, c'est linéaire. Et pourtant, 3-4 fois déjà, et je dois être à la moitié du jeu... je me suis retrouvé complètement coincé, je savais pas où aller et j'ai dû aller sur un wiki, sur un guide pour trouver la nouvelle zone. Et il y a rien de fun dans cette partie. Je m'amuse beaucoup tant que j'avance et tant que je sais plus ou moins où aller. Et quand je suis coincé, et ça arrive régulièrement comme je le disais, c'est juste pas fun, quoi. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Et, enfin, pour moi, en tout cas. Et je sais, j'en ai parlé un petit peu sur Twitter, et il y a des gens qui me disaient « Ah ouais, c'est vrai, mais c'est comme dans les Metroid classiques. Il y a toujours cette petite partie, et c'est un des charmes du jeu. » Et j'ai l'impression que, d'une certaine manière, c'est un truc qui plaît aux gens qui aiment le genre, mais qui l'aiment, ça leur plaît parce que ça fait partie... des jeux auxquels il jouait il y a 20 ans, tu vois, et que pour quelqu'un qui découvre le genre aujourd'hui, c'est tellement archaïque comme moment dans le gameplay que c'est difficile de l'apprécier, quoi. Maintenant, peut-être que c'est parce que moi, je suis complètement nul dans le... Enfin, j'ai pourtant une certaine expérience des Metroidvania, mais il faut savoir... Il y a des trucs, si tu le sais pas, en fait, tu peux pas savoir... Tu peux juste, il y a aucun moyen dans le jeu de savoir que c'est ça qu'il fallait faire. Il y a des moments où il faut détruire des murs qui n'ont absolument rien de différent de tous les autres murs que tu as vus pendant tes 2 heures de jeu précédentes. Il faut juste tirer sur un mur qui est normal. Sinon, tu peux juste, c'est pas que c'est un truc optionnel que ça va te donner un bonus, c'est que c'est le chemin pour avancer. Et si tu le sais pas, alors si tu as déjà joué à des Metroid, tu le sais, et bon, pour la prochaine fois, peut-être que je le saurai, mais si tu le sais pas, c'est juste, tu peux plus jouer, là, jusqu'à ce que tu ailles chercher sur, sur Twitter ou sur...
Ah non, je comprends, et ça, c'est des éléments de gameplay, et c'est pas exclusif à Metroid, hein. Symphony of the Night, par exemple, on est un autre bon exemple, hein. Il y a des fois où tu dois te refaire les 3/4 du jeu, et parcourir toutes les salles du château de Dracula dans tous les sens pour trouver le passage où il y avait un truc à faire. Je trouve que c'est des éléments de gameplay qui avaient du sens à l'époque. Maintenant, c'est un peu archaïque et ça apporte pas grand chose, je trouve, au jeu en lui-même, malheureusement. Donc là, je te suis totalement.
Ouais. C'est mais j'ai un peu dommage. Que... Sur Dread, contrairement à Castlevania, si on, même si on parle de Symphony of the Night, t'as une carte, la carte elle est hyper claire, tu vois les salles que t'as explorées, les salles que t'as pas explorées, et oui, peut-être qu'il y en a une, il faut te souvenir que là il y avait un truc qui ressemblait à ça pour aller le revenir à cette zone spécifique de la carte pour essayer avec ton nouveau pouvoir, mais dans Metroid, la carte elle est imbitable, tu comprends rien. Tu comprends rien. Elle est immense. Ouais. Il y a des icônes différentes partout, de toutes les couleurs. Et du coup, pour retrouver, moi, je passe des heures. Bon, j'exagère, mais je passe de longs moments sur la carte à la regarder, à zoomer, dézoomer, essayer de regarder ce que veulent dire les différentes icônes. Alors après, il y a des trucs genre, alors ça clignote quand il y a un truc encore à explorer, mais c'est genre, il y a un truc à explorer pour un jour où tu auras le pouvoir qui te permet d'explorer cette partie. Et ça, ça te le dit pas sur la carte. C'est juste qu'il y a encore un truc à explorer là. Bref, je trouve ça vraiment, vraiment archaïque, encore plus, enfin, et moins lisible que même dans un Castlevania. Et peut-être que c'est parce que je m'en souviens plus des Castlevania. Ça fait longtemps que j'ai pas refait Symphony of the Night, mais bon.
Et je suis d'accord. Et la carte est vraiment pas très agréable à lire. Je trouve, j'avais pas eu ce ressenti justement donc dans le Metroid sur 3DS, ni dans aucune autre version par le passé. Mais peut-être que je m'en souviens mal. Mais ouais, dans celui-là, moi, je dois t'avouer que la carte ne sert pas à grand-chose en fait. Ouais. Et elle est assez peu ergonomique pour me dire, je sois vraiment pas sûr à certains moments de est-ce que je suis allé là, est-ce que j'ai trouvé le machin ou pas. Il faut survoler les petites icônes pour qu'ils disent oui, tu l'as déjà attrapé l'objet caché machin qui était perdu dans le mur. Ok, mais ouais, ça, je pense qu'il y a de la marge de progression. C'est dommage parce que le gameplay, la dynamique, le rythme du jeu sont excellents, les combats contre les boss sont très cool, mais cette partie-là, je trouve que c'est une purge.
Je t'avoue que, du coup, à force, ça m'avait un petit peu découragé. Et je viens pour l'émission de chercher le trailer de Metroid et je suis tombé sur le deuxième trailer. Le premier trailer est très simple et montre le début du jeu. Le deuxième te montre un petit peu tous les pouvoirs que tu débloques. Et moi, en bon joueur de base, je vois tous les pouvoirs, les dashs, les trucs qui explosent, enfin, tous les machins. Et je me suis dit, ah mais merde, là, il faut que je joue à ça, quoi. Ça a l'air super fun. Donc, tu vois, ça m'a donné envie de recommencer à jouer. Oh, j'ai joué il y a 3 jours, mais de me relancer vraiment pour avoir tous ces pouvoirs. Parce que déjà que le gameplay, je trouve assez fun et dynamique. Là, ça a l'air carrément d'être une symphonie de Samus, quoi. Et avec tous ces pouvoirs, c'est vraiment un jeu différent, j'ai l'impression. Donc, ça me donne envie. Tu l'as fini, toi? T'en es où?
Non, pas encore. J'ai fait 4 boss.
D'accord.
Donc je dois plus être très loin de la fin. Et t'as fait combien de boss, en fait, sans spoiler?
3. Et je suis dans la zone du quatrième, donc... Enfin, tu parles des boss, les émis ou les gros boss?
Non, pas les émis, les gros boss, les vrais d'accord. Gros boss avec des techs.
Ah oui, d'accord. Je crois que j'en ai fait 3. 3 ou 4, parce qu'il y a... Ouais, 3, je crois, ou 4, je sais plus. Je suis dans la quatrième zone.
D'accord. Oh oui, bon, ça va. T'es pas très très loin de moi alors.
Ouais.
Moi, je reviens dans la quatrième zone pour continuer à explorer un
pareil.
Peu.
Pareil. On doit être au même endroit. T'as fait le truc. Tu viens de battre le boss qui, on spoil vraiment pas, hein, mais qui envoie des os, des petits morceaux de lui-même.
Ça fait longtemps celui-là. Non,
d'accord.
Fait,
bon, bah t'es plus.
Au moins un ou deux après.
D'accord. Ok. Bon, bah t'es beaucoup. Ouais. Heureusement, tu n'as pas à renier ta réputation de vrai gamer, contrairement à moi. Donc voilà pour nos jeux du moment. Mais là, vraiment, je te dis, en regardant le deuxième trailer, ça m'a donné méga envie. C'est marrant. On va parler un petit peu de news plus ou moins controversées pour la dernière partie de cette émission. La première news, c'est un truc que fait Bungie avec Destiny 2 qui est un petit peu bizarre et assez scandaleux. En fait, ils ont annoncé que pour la prochaine extension de Witch Queen, qui devrait arriver en février, comme tous les jeux arrivent en février, eh bien... il y a la version de l'extension normale qui donne la campagne du jeu. Il y a le Season Pass, enfin le Annual Pass, qui donne droit aux saisons dès la première saison. En fait, la première extension, l'extension n'inclut pas la première saison. Ça, il faut le savoir. Mais en plus de ça, il y aura 3 donjons dont 2 ne seront pas inclus dans l'extension de base ni le Annual Pass, mais qu'il faudra acheter, pour lequel il faudra acheter le Deluxe, l'édition Deluxe qui coûte, je ne sais plus, 10 ou 20 euros de plus pour les avoir. Et en plus de ça, il y a un troisième donjon, comme je le disais, qui n'est pas inclus ni dans l'extension, ni dans l'Annual Pass, ni dans la version Deluxe, mais qui est incluse dans le Bungie 30e anniversaire bundle, qui coûte là, pour le coup, 100 boules. Enfin, pardon, excusez-moi. Le bundle, il coûte, je ne sais plus, 20 ou 30 euros, mais le total pour tout avoir, il coûte 100 euros à peu près. Donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, les gens ne sont pas contents, parce que les donjons, d'une manière générale, c'est une partie intégrante du jeu. Et donc là, même si on n'a pas eu beaucoup depuis le lancement de Destiny 2 des nouveaux, mais le fait de sortir les donjons, tu peux les acheter en plus à part, mais le fait de sortir les donjons de l'extension, c'est... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils font. À mon avis, ils vont devoir faire marche arrière, mais c'est vraiment... Ce qui est marrant, c'est que à l'époque où Destiny était, enfin où Bungie avait le deal avec Activision, beaucoup de gens critiquaient Activision pour les décisions de modèle d'affaires et de financières de Destiny. Tout le monde disait ah voilà c'est Activision qui fait ceci et cela, et moi je disais souvent mais alors peut-être que là c'est Activision, mais enfin faut pas se leurrer quoi, les boîtes elles sont là pour faire de l'argent, et à mon avis Bungie ils sont pas contre l'idée de récupérer un peu plus d'argent. Et je le comprends, ça. Mais là, même moi qui suis généralement assez... qui excuse beaucoup... Enfin, pas qui excuse, mais qui comprend ce genre de décision et qui souvent voit l'équivalent valeur financière, valeur de jeu. Là, je me dis, mais sortir un donjon, ne serait-ce qu'au niveau de l'image, mais c'est catastrophique. Enfin bon, bref, je comprends pas. Voilà, on n'a pas besoin de passer 2 heures dessus, mais...
Non, mais je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus, en plus. Hein, c'est...
Pour que non, moi, je dise « Ah bah non, ça c'est pas cool », ça veut dire que vraiment tout le monde est d'accord. Je suis assez gentil, généralement. Donc, ouais, on est d'accord. Tout le monde sera... personne n'est content de ce truc. Moi, je pense qu'ils vont devoir faire marche arrière. C'est pas possible. On parlait des jeux qui seront uniquement next-gen, enfin current-gen maintenant. Dragon Age 4 fera partie de cette catégorie. A priori, il ne sortira pas sur PlayStation 4 et sur Xbox One. Donc la next-gen arrive vraiment. Enfin, bon, en même temps, Dragon Age 4, on ne sait pas quand il sort, mais quand même. Si vous n'aimez pas ces consoles pour paysans pouilleux, vous pouvez vous gargariser du fait que vous aussi, sur PC, vous pourrez jouer Kratos dans God of War, la version de 2018, hein, de PlayStation 4. Sur PC, il arrive dès le 14 janvier, et ça a été annoncé il y a 2 jours par Sony eux-mêmes, donc ça continue la série des jeux exclus PlayStation qui arrivent sur PC, on va dire 4 ans à peu près, 3 à 4 ans après leur sortie sur PC. Tu vas te le refaire, bien sûr.
Ça va peut-être s'accélérer aussi à terme, hein, parce que c'est assez récent, ces portages. Mais si ça se trouve, peut-être aussi que c'est un moyen de préparer et de tester la température de l'eau pour Sony, pour dire, voilà, bah, quand God of War 2 sortira à un moment sur PS5, peut-être qu'un an après, il sortira sur PC. Ce serait une bonne chose pour tout le monde.
Moi, je n'y crois absolument pas. Un an,
j'y crois
trop...
pas vraiment non plus, parce que c'est ouais. un bon moyen de faire des exclus systèmes et de vendre beaucoup de PS5. Mais bon, écoute, restons optimistes. Peut-être 2 ans, tu vois. 4 ans, ça fait long quand même.
Ouais, mais
bon, en tout cas, c'est un très bon jeu. Hein.
Mais tu vois, ça arrive a priori la même année que le suivant, donc ça fait un outil marketing pour Sony. Enfin, tout on pense fait, que ouais. le prochain arrivera en 2022 aussi, hein, mais ça fait un outil marketing pour Sony. C'est suffisamment long pour que les gens qui veulent vraiment y jouer se disent « Bon, bah, je vais prendre une PlayStation, sinon c'est 3 ou 4 ans à attendre, c'est un peu trop long. » Et en plus, dans le processus de monétisation de leur propriété chez Sony, la raison d'être de ces jeux-là, c'est de vendre des PS5, enfin des PlayStation, sur lesquels ils vont ensuite récupérer de l'argent sur toutes les ventes, que ce soit leur propre jeu ou les jeux de tiers. Donc, l'idée, c'est d'avoir un marché large pour les joueurs PlayStation, enfin, une part de marché importante pour les PlayStation, pour que la plateforme soit intéressante pour les développeurs et donc qu'ils récupèrent beaucoup d'argent en commission. S'ils se mettent à sortir leur jeu un an après la sortie sur console, l'intérêt de l'achat de console est beaucoup réduit et du coup, ils se tirent une balle dans le pied. Autant c'est cohérent de les sortir 3-4 ans après parce que c'est suffisamment tard pour que ce soit de l'argent qu'ils n'auraient pas récupéré autrement et ils n'en perdent pas beaucoup plus ailleurs. Peut-être qu'il y aura 2-3 personnes qui vont se dire « Ah, les jeux arrivent 3 ans après, je ne vais pas m'acheter de PlayStation », mais c'est relativement rare. Autant en le sortant l'année un an ou même 2 ans après, ça se tire une balle dans le pied, quoi. Ça leur tire une balle dans le pied.
Je ne sais pas quel est le niveau de vente d'un jeu de ce type un an après sa sortie. J'en sais rien. Si effectivement les ventes continuent à être bonne et régulière, effectivement, ils n'auront aucun intérêt à faire ça. Mais
c'est pas que
si elle s'effondre au bout d'un an, un an et demi, là, il y a effectivement un moyen de... Parce que je trouve que c'est aussi, tu l'as dit, c'est un excellent moyen marketing de redonner un coup de visibilité à un jeu qui commence à vieillir un peu. C'est peut-être un moyen aussi de rappeler aux gens, regardez, God of War 2, qui est sorti il y a un an et demi sur PS5, maintenant il est sur PC, mais vous pouvez encore l'acheter sur PS5, où vous aurez la meilleure expérience du monde, parce que c'est la PS5 qui est mieux que tout. Voilà.
Je suis pas vraiment d'accord, parce que d'une part, je suis sûr que les ventes s'effondrent après 3 mois même, ou tu vois, elles se stabilisent après 3 mois, mais elles s'effondrent un an après, je suis sûr qu'ils se font plus beaucoup. Mais le truc, c'est que si tu donnes l'habitude aux gens de sortir ton jeu un an ou un an et demi après la sortie console sur PC, du coup, là, les gens peuvent se dire « Ah bah, je vais attendre ». Tu vois ? Alors que 3 ans, c'est difficile de dire « Je vais attendre » parce que c'est très long. Un an et demi, c'est très court. Et les gens peuvent se dire « Je vais attendre ». Le produit que vend Sony, c'est pas God of War. Le produit, c'est la plateforme PlayStation sur laquelle ils se font leur argent. Et du coup, ils réfléchissent pas à l'argent que leur rapporte God of War, ils réfléchissent à l'argent que la plateforme PlayStation leur apporte. Et donc, si les gens n'achètent plus de PlayStation parce qu'ils se disent « le jeu sort dans un an, donc je peux attendre sur PC que j'ai déjà », là, c'est un désavantage pour eux. Alors que si c'est 3-4 ans, vraiment, ça me semble être suffisamment long pour que quelqu'un qui aurait pensé acheter une PlayStation se dise « je vais l'acheter 3 ans, c'est trop long pour attendre l'arrivée sur PC ». Est-ce que je t'ai convaincu avec mon argument mon argument stratégie marketing finalement.
Ah mais évidemment. Non mais merci. Tout ça en fait à mon avis c'est des calculs financiers en fait et business qui vont dire il y aura un moment où tu vois est-ce que c'est 3 ans, est-ce que c'est 1 an, est-ce que c'est 6 mois, est-ce que l'opportunité de pouvoir vendre une PS5 à un acheteur de God of War reste au plus haut niveau pendant X temps, et c'est à ce moment-là où je pense qu'il y a une transition à faire. Mais je pense que globalement, ce qu'ils vont voir PlayStation, c'est surtout comment est-ce qu'ils peuvent générer le plus d'argent au total, en comptant les opportunités de conversion sur PlayStation 5, la croissance du PlayStation Store aussi, qui est quand même très importante dans ce choix-là, parce que finalement, la valeur ajoutée de la PlayStation 5, c'est pas tant de vendre la console elle-même que plutôt des services, des accessoires qui rapportent beaucoup d'argent. Et c'est là où il y a, tu vois, des calculs de rentabilité, de profitabilité à faire et de voir aussi quel est le type de conversion qu'on peut avoir. Combien de gens vont acheter God of en janvier ou en février, etc. Et jusqu'au moment où est-ce que ça va avoir un impact réel sur les ventes de PS5 et de God of War 2.
Moi, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que le produit de PlayStation, c'est pas la PlayStation, c'est pas les jeux, c'est la plateforme. La plateforme est le client de
PSN. Ouais. Clairement, le PSN.
Non, même pas du PSN. Quand tu achètes un jeu en physique, Sony touche sa commission aussi. Alors peut-être
bien
pas
sûr,
autant
c'est
que c'est un jeu numérique.
C'est moins important. Ouais. C'est plutôt À mon avis, le jeu physique, à terme, ce sera plutôt utilisé comme un vecteur marketing, parce que finalement, t'as jolie boîte qui est dans ton rayon à Fnac, etc. Mais les processus de logistique, de distribution, la marge des retailers chez lesquels tu vas vendre, etc. C'est très complexe à mettre en place, ça coûte très cher. Que finalement, vendre un jeu sur le PSN, une fois que t'as installé ta base sur le PSN, il y a rien de plus rentable pour une marque.
Complètement. Mais évidemment, eux, ils préfèrent largement te vendre un jeu sur PSN que tu l'achètes à la Fnac ou chez Micromania. C'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la base installée d'utilisateurs, leurs produits. Tu vois, c'est les gens qui achètent des jeux sur PlayStation, c'est ça qu'ils essayent de construire. Et tout le reste est un outil pour faire grossir ce produit-là. God of War, c'est donner aux joueurs une raison d'entrer dans l'écosystème PlayStation, par où que ce soit. Et le produit au final de Sony, c'est ça. Et donc, s'ils font un truc pour... Bon, bref, on a détaillé la chose dans tous les sens.
Ouais. De toute façon, à mon avis, le moyen de rentrer dans l'écosystème PlayStation en ce moment, c'est de pouvoir trouver une PlayStation déjà.
Une PlayStation 5, c'est sûr. Ah, des PlayStation 4, il y en a plein. Il semblerait qu'il y ait un nouveau Splinter Cell en développement. C'est une rumeur, mais c'est pas totalement impossible. On en parlait depuis longtemps, mais c'était des envies. Aujourd'hui, c'est une rumeur qui vient de Video Games Chronicle, et c'est plus que juste les gens qui espèrent que le jeu arrive. Donc, on verra si ça se produit. Ils ont deux sources chez Ubisoft qui disent que le jeu est en développement. Ça ne veut pas dire que ça sera un jeu Splinter Cell classique. Ça se trouve, ça sera Splinter Cell Recognition qui sera un jeu de, je ne sais pas, un jeu de stratégie, peut-être. On a l'habitude chez Ubisoft. Riders Republic va avoir une période d'essai gratuite juste avant le lancement. Riders Republic, vous savez, c'est cette sorte de suite-pas-suite de Steep qui va sortir de chez Ubisoft toujours, qui aura une période d'essai là de aujourd'hui à dans une semaine, et la sortie, c'est le jour d'après. Et on peut jouer, je crois, 4 heures à Riders Republic. Il est dispo sur à peu près toutes les plateformes avec cette période d'essai, je crois. Donc, si vous voulez le tester, c'est un jeu qui a eu des retours étonnamment positif lors des périodes de bêta et d'essai précédentes. Et c'est un jeu où on doit descendre des montagnes et c'est le méga sport extrême, on fait du ski, du snowboard, du vélo, du wingsuit, enfin de tout. Et visiblement, c'est assez fun, donc peut-être que j'essaierai de l'installer et de tester ça, parce que c'est pile le genre de jeu où tu dis « je vais pas le payer plein pot ». Mais si tu l'essayes, ça va peut-être être marrant de manière inattendue, quoi. C'est le Battle Royale des Descenders.
Ce que je trouve excellent là-dedans, c'est que ça montre aussi qu'ils ont vraiment très très confiance dans leur produit, dans leur jeu, pour pouvoir le mettre en accès ouvert, comme ça, pour essayer de convertir un maximum d'utilisateurs pour l'achat Day One. Et si seulement ça pouvait arriver plus souvent, je pense que ce serait une bonne chose pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde, pour les utilisateurs.
Je pense que effectivement, ça montre une vraie confiance dans le jeu, et je pense que c'est un décalage entre la qualité, enfin peut-être, mais ça pourrait être un décalage entre la qualité du jeu et les attentes de joueurs, parce que je pense que les attentes des joueurs sont assez faibles pour ce jeu. Ils disent ce type c'était pas cool, ce jeu il a l'air bizarre machin, mais je pense que Ubisoft se dit non mais c'est vraiment un jeu cool, donc on veut que les gens le testent pour qu'ils se rendent compte qu'il est cool. Donc à voir, ça s'appelle Riders Republic et la période d'essai commence aujourd'hui. GTA, la trilogie définitive édition machin dont on parle déjà depuis quelques semaines, on a quelques infos qui ont commencé à fuiter. La première qui est la plus importante, je pense, enfin pas la première mais la plus importante, ça me semble être le fait qu'ils ont revu le système de visée pour le c'est une rumeur mais ils l'auraient revu pour l'adapter au système de visée, en implémenter le système de visée plus moderne, celui de GTA V, plutôt que celui du 3. Je pense que certains seront heureux de l'apprendre. C'était l'un des sujets de discussion qui revenait systématiquement sur cette trilogie. Est-ce que tu as vu cette nouvelle vidéo de Pokémon Legends Arceus
Oui, je l'ai vue. Elle était surprenante.
C'est super bizarre comme communication, non, de la part de Nintendo en plus.
C'est, écoute, oui, c'est vraiment surprenant. Bah écoute, c'était, ouais, c'est différent. Je m'attendais pas à ça en fait, mais vraiment pas, c'est un ovni. Hein.
Complètement, c'est pour ceux qui l'ont pas vu. Attention à ton micro, Dani. Pour ceux qui l'ont pas vu, c'est en fait Blair Witch Project version Pokémon. C'est un explorateur qui est en found footage, qui montre ce qu'il a pris en vidéo, vraiment sur une vidéo VHS d'il y a 30 ans. 40 ans même, et il commente et il dit « Oh, mais je vois un animal, il fait tellement froid ici !» Et on comprend pas ce qu'il dit. Et, « Oh, regardez, il a une queue toute rouge, qu'est-ce que ça peut être ?» On voit à peine, c'est noir et blanc, hyper sombre, avec des artefacts vidéo partout. C'était inattendu, mais au moins ça fait de la communication pour Pokémon Legends Arceus. C'est assez marrant. On n'en avait pas parlé aussi, mais visiblement, c'est pas vraiment un monde ouvert, Arceus. C'est plus une division de zones à la Monster Hunter. C'est comme ça qu'il le décrivait. Donc, Arceus, pas tout à fait monde ouvert, contrairement à ce qu'on pensait, et ce qu'ils ont laissé penser pendant un moment. Quoi d'autre ? Alors, il y a plein d'autres petites news qu'on va sauter. Mais pour arriver à l'une des news les plus importantes de cette semaine, c'est une news qui a provoqué des cris des larmes, des pleurs dans le Discord du rendez-vous jeu, c'est l'annonce du retard de Elden Ring. Il ne sortira pas en janvier comme prévu, mais il sortira... qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? Quand est-ce que tous les jeux sortent ? Vous pouvez me le rappeler ? Tous les jeux sortent
en avril.
Ah, Dani ! Tu es vraiment... Mais pourquoi est-il si méchant ? Tous les jeux sortent en février et Elden Ring sortira finalement le 25 février. C'est assez incroyable ce mois de février 2021. Ça va être... Enfin, 2022, pardon. C'est vraiment 02-2022. C'est le mois... je ne sais pas, il faudrait lui trouver un nom. Le mois de la folie ou un truc du genre. Donc bref, il sort le 25 février et il y aura d'ici là ce qu'ils appellent un network test pour lequel il faut s'inscrire, qui aura lieu courant du mois de novembre à différentes heures. C'est à peu près mi-novembre, il y aura trois dates où il y aura un test de réseau. Donc vous pouvez peut-être avoir un petit goût de Elden Ring pour... Cassim a trouvé un beau nom, Februaricalypse. Ok, pas mal. C'est l'apocafévrier, bon, il faut franciser, hein, mais apocabruari, pas mal, Dani. Il faudra peaufiner un petit peu ce terme. Et puis, un mois de décalage, je ne sais pas vraiment ce qu'ils vont pouvoir faire en un mois, mais... Toujours au rayon des retards, il y a The Witcher 3 et Cyberpunk 2077, les versions next-gen, qui ont été décalées à 2022. The Witcher 3, ça sera deuxième trimestre et Cyberpunk premier trimestre. Je crois que c'est ça, ou alors c'est dans l'autre sens. Donc voilà pour... Oui, c'est bien. Non, c'est The Witcher deuxième trimestre et Cyberpunk premier trimestre. C'est bien ça. Donc les versions next-gen arrivent, mais elles ont aussi été décalées. De là à ce que Cyberpunk sorte aussi sa version next-gen en février pour se faire oublier, ça me paraît pas totalement impossible hein, qu'ils choisissent une date genre en plein milieu du Februaricalypse, juste pour qu'on n'en parle pas trop, je pense. Un peu de news de l'industrie, la croissance du Game Pass continue, mais pas aussi vite que l'espérait Microsoft. Alors, ça reste toujours une croissance très importante, hein, évidemment, mais dans leur rapport financier, ils ont dit qu'ils étaient à 37,5% de croissance contre leur cible de 47,8% de croissance pour les abonnés au Game Pass. On n'a pas les chiffres précis, mais c'était leur objectif. Bon, 37% de croissance, ça reste quand même un beau chiffre. Et puis, surtout, il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas sortis. On peut tout à fait imaginer qu'avec les mois et les années qui viennent, ben, les jeux Microsoft vont pousser le Game Pass encore plus qu'aujourd'hui. Et Spencer, d'ailleurs, a confirmé qu'ils allaient encore, a priori, racheter des studios s'il y avait des choses intéressantes qui arrivaient. Ça, on pouvait s'en douter. Et en propos du Game Pass, il y a des jeux qui arrivent d'ici octobre et début du mois de novembre. Outriders, mais je croyais qu'il était déjà dans le Game Pass Outriders, j'ai dû me tromper. Le Dragon Ball FighterZ, Dragon Ball Fighters qui arrive dans le Game Pass, très très sympa ce jeu de combat. Age of Empires 4 qui sort la semaine prochaine et dont on parle évidemment maintenant. Voilà, vous dites qu'on parle jamais de Age of Empires, on en parle tout de suite. Age of Empires 4 sera dans le Game Pass à sa sortie évidemment et donc le Game Pass continue à être très très cool. C'est ça, Outriders était Game Pass Xbox seulement, il arrive sur PC, merci Kassim, qui nous rappelle aussi que, a priori, ça serait 20 millions d'abonnés Game Pass pour juin 2021 à peu près, d'après l'analyste extrêmement bien informé Daniel Ahmad. Johan Rousseau a reçu a reçu l'Ordre national du mérite. C'est la fondatrice et présidente de Spiders, un studio de jeux vidéo français. C'est cool qu'on commence à avoir de plus en plus de gens qui reçoivent l'Ordre national du mérite dans le domaine du jeu vidéo. C'est très bien. Le Z-Event aura lieu à la fin de ce mois, dans une dizaine de jours, et cette fois-ci, ça sera au bénéfice d'Action contre la faim, et c'est toujours un événement intéressant parce qu'il réunit énormément de personnes, de streamers connus de Twitch, et certains le critiquent parce que c'est un moment où on ne parle pas des problèmes de Twitch, justement, un moment où on pourrait les mettre en avant, pas les problèmes de Twitch, mais les problèmes des Twitchers. Mais c'est aussi un moment de fête, justement. Peut-être que c'est bien de faire une pause sur les controverses de temps en temps. Quoi d'autre ? Je voulais parler un tout petit peu de réalité virtuelle, et puis on va conclure bientôt. Lone Echo 2 est sorti, et je me suis dit, bon, allez, Lone Echo 2 est sorti, je vais enfin tester Lone Echo et je vais me faire une idée sur ce jeu qui est censé être le meilleur jeu de l'histoire de réalité virtuelle, possiblement avec Beat Saber et Half-Life Alyx. J'ai donc sorti mon Oculus Quest et je me suis dit, allez, je vais le brancher, il va peut-être falloir faire une installation de nouvel OS, etc. Et puis je vais voir ce que ça donne. En plus, il y a le Link Wi-Fi qui marche très bien. Eh bien, écoutez, impossible de charger les pages du store, impossible de se connecter à quoi que ce soit. Enfin, je peux me connecter à Internet, mais aucune page ne se charge. Les pages du store, les pages home, les pages de rien du tout. Et j'ai passé à peu près 2 heures à essayer de faire marcher ce putain d'Oculus Quest. Je vais finir par y arriver. Je suis sûr que c'est un truc trop con parce que je ne l'ai pas utilisé depuis un an et qu'il y a, je sais pas, un truc à changer. Mais franchement, niveau symbolique de la réalité virtuelle, il faut travailler pour essayer de pouvoir l'apprécier. Il faut travailler contre pour pouvoir l'apprécier. C'était assez fort, je vous avoue. Donc, et au niveau de la réalité virtuelle, il semblerait, selon Ming-Chi Kuo, que Apple sorte, enfin au moins présente son casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, on n'est pas tout à fait sûr, vers la fin 2022. C'est important pour nous aussi, joueurs sérieux, parce que si Apple se lance vraiment dans le marché du casque de réalité virtuelle, ça amène évidemment un boost à tout ce secteur. Et donc, ça pourrait être, avec le casque de la PlayStation, le casque du PSVR 2, ça pourrait être un moment de renouveau pour la VR, qui a vraiment installé toutes ses bases pendant la décennie presque qui aura précédé, et puis qui pourrait maintenant avoir quelque chose de vraiment viable, mais à voir. Et entre parenthèses, Resident Evil 4 est disponible sur VR maintenant aussi. Il n'y a pas tout le contenu de Resident Evil 4, mais c'est assez cool que ce jeu ait été adapté pour ceux qui y apprécient. Quoi d'autre ? La news la plus importante sur laquelle on va conclure, vraiment quelque chose d'essentiel, le frigo Xbox Series X est bien une réalité. Et malheureusement, je ne sais pas où je peux m'en procurer un. J'étais extrêmement enthousiaste à l'idée d'avoir un mini frigo Xbox Series X. Vous savez que j'ai un frigo derrière moi, là, dans le salon, dans le bureau, pour garder mon eau bien fraîche et mon thé houlon bien frais. Et j'aurais adoré pouvoir avoir une Xbox. Et malheureusement, elles sont parties absolument immédiatement et elles sont en vente sur eBay pour le double du prix. Donc, bon.
Il est aussi facile de le trouver le frigo que la console elle-même, j'imagine.
Exactement, exactement.
Ouais, super. Ils vont faire des bundles, à mon avis. Ça sera plus. Hein.
Quoi d'autre ? Bah écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cet épisode. La news évidemment essentielle était le mini frigo, celle qu'il faut retenir. J'espère que vous l'aurez bien noté. Je mentionne quand même un article vieux d'un an sur Frandroid de notre ami Cassim, encore lui, qui parlait d'un nouvel âge d'or du jeu vidéo. Et c'est l'occasion de réitérer le fait que un an après, et à vrai dire ça se prépare depuis quelques temps, je pense qu'on peut dire qu'on est vraiment dans un âge d'or du jeu vidéo. La raison pour laquelle j'en parle, c'est que ce terme est en train de se cristalliser. Et j'en parle dans l'émission depuis longtemps, hein, il n'y a jamais eu de moment plus riche dans le jeu vidéo qu'aujourd'hui, et de riche à tous les niveaux, pour les productions indé, triple A, la qualité, les offres des différents acteurs, que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo ou le PC. Alors évidemment, il y a des problèmes dans l'industrie, hein, ça on le sait bien, mais vraiment, l'âge d'or du jeu vidéo, je me demande si on peut pas vraiment classifier les choses comme ça, genre les 30 premières années ou 40 premières années en fonction de quand on compte, c'est l'âge, je sais pas si on dit d'argent, mais l'âge d'or du jeu vidéo, on peut vraiment dire que c'est maintenant, enfin on pense que c'est maintenant, on va voir ce qui se passe dans les 10, 15, 20, 30 prochaines années, mais on arrive à un niveau assez incroyable de ce qu'on peut faire, et on en parle souvent, mais je vous avoue que j'adore pas le terme l'âge d'or du jeu vidéo, mais peut-être que c'est celui qui va s'imposer. Bon, en tout cas, c'est un moment cool pour être un joueur de jeux vidéo. Merci Dani d'avoir été avec moi dans cet épisode. C'était un
immense
plaisir.
De rien, c'est toujours un plaisir. C'est
Mais Dani, est-ce que tu n'as rien retenu de ce qu'on disait au début de l'épisode ? Ton rôle dans cette, tu sais, c'est comme dans Wildermyth, nous sommes rivaux et bon, on s'aime bien dans le fond, mais comme Sangoku et Vegeta, on est en fait, on met.
Non, j'ai une meilleure analogie. Je suis Sacha et tu es Régis. Hein.
Sacha et Régis.
Les fans reconnaîtront, oui, c'est oui, Pokémon.
Ah, d'accord, ok, très bien. tu es Sacha et je suis Régis, c'est ça ? Est-ce que Régis est bête et méchant ?
Voilà, et c'est exactement pour ça qu'on l'avait appelé Régis.
D'accord, très bien. Ah, d'accord, oui, parce que pour ceux qui
ne savent
pas...
Tu sais pourquoi, je ne dirai pas ça. Alors,
d'accord, mais... ok, vous avez compris. Et il s'appelait...
seulement les gens qui ont regardé les
seulement télé, les gens les qui 90s savent pour, ouais ok non mais là référence. tu viens un peu de blower mon mind Dagi. La raison pour laquelle Régis s'appelle Régis, c'est parce que Régis, d'accord, très bien, dans Pokémon,
et c'est aussi des anagrammes des créateurs d'origine du jeu, mais avec des lettres en moins, évidemment on pouvait pas garder les noms japonais tels quels, mais oui c'est ça.
D'accord, très bien. Eh bien écoute, tu nous apprends quelque chose. Ceux qui sont restés jusqu'au bout de l'épisode en auront eu pour leur argent. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet, Dani ? Dis-moi tout.
Eh bien, sur Twitter, @notdani, N-O-T-D-A-N-Y. Facile.
La chatroom est en train d'être complètement
ils sont submergés.
Note Dani sur Twitter, pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous retrouvez tous les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com, y compris le rendez-vous jeu bien sûr, le replay du rendez-vous jeu sur YouTube, le replay du rendez-vous jeu et du rendez-vous tech. On est sur Twitch à midi tous les jeudis et tous les mardis pour le rendez-vous tech, donc venez vous joindre suivre à nous, c'est hyper sympa, ces moments-là. À noter que la semaine prochaine, on risque de devoir enregistrer un petit peu plus tôt parce qu'il y a une réquisition bébé. Donc, mais je vous tiendrai au courant. Ça risque d'être 9h30 plutôt que midi, mais on fera peut-être un truc à midi quand même. On verra comment ça se passe. Ah bah non, parce que je m'occuperai du bébé, donc je pourrai pas. Donc, un peu plus tôt la semaine prochaine, mais il y a le programme sur Twitter qui est posté tous les lundis. Donc là, vous saurez. Et puis, évidemment, si vous voulez soutenir l'émission sur Patreon, c'est patreon.com/rdvjeux. Vous savez que c'est le moyen de rendre le monde meilleur. Enfin, à peu de choses près, en tout cas, c'est un moyen de soutenir des créateurs que vous appréciez sur Patreon. Et l'un de ces créateurs, c'est peut-être moi, patreon.com/rdvjeux. Merci à tous ceux qui font ce geste actif et qui, du même coup, bénéficient de plein de bonus super sympas qu'ils apprécient, j'espère. On vous fait des grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous.
Et dans un mois pour nous.
Et dans un mois pour Dany, évidemment. Ça sera déjà trop tôt. Hein. Ça sera trop tôt, un mois seulement, pour retrouver Dany. Oh. Mais bon, on est obligé, c'est dans son contrat. Bon, à très vite. Ciao à tous.
Allez, au revoir.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.